dans le cadre d'une initiative lancée par l'Université du Temps Libre de Bayonne, Claude Labatte, ancien enseignant et animateur de l'association Laoboulou, était au Musée Basque de Bayonne pour y présenter une conférence intitulée « Les procès en sorcellerie de 1609 en labour ». Plus de 400 ans après les faits, Claude Labatte se propose de démêler l'histoire et la légende en vous replongeant dans la vie de cette province du Pays Basque au XVIIe siècle, à travers une description détaillée de son contexte politique, économique et culturel. Voici la première partie de cette conférence, enregistrée le 8 novembre 2013 au Musée Basque de Bayonne.
Oui, je suis vraiment très, très content de revenir à l'Université du Temps Libre de Bayonne pour vous présenter cette conférence qui a été réalisée à l'occasion de la commémoration des procès de 1609. L'histoire de cette conférence est très simple. Dans les années 2005, 6 ou 7, je ne sais plus, un grand scoop apparaît dans la presse régionale. Biarritz va être la première ville de France à fêter Halloween. Alors j'ai écouté, bien entendu, cette information avec attention. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque la personne chargée de cette animation déclare: c'est normal de fêter Halloween à Pays Basque. Les sorcières d'Halloween sont les sœurs des sorcières basques. Alors mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, bon sang, si on en arrive là, il y a quelque chose qui ne va plus. Soit on n'est pas informé, soit on ne va pas voir les choses telles qu'elles se sont déroulées. Mais Halloween n'a rien à voir avec la culture basque, avec l'histoire basque, ni l'histoire de France. Donc j'ai été voir mon éditeur. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il faut faire un petit document très simple pour dire aux gens ce qu'a été la sorcellerie en labour en 1609. Donc on est parti sur un petit ouvrage tout simple, pédagogique, pour expliquer tout ça. Et, à mon habitude, j'ai doublé ce travail-là par un travail de vulgarisation que vous allez voir aujourd'hui, sous forme de diaporama, pour essayer d'en savoir un peu plus. Le travail que j'ai entrepris est un travail vraiment de vulgarisation pour faire connaître la teneur de ces événements, pour sortir de tous les fantasmes qu'on a véhiculés jusqu'à présent. Je suis peut-être très prétentieux en le disant, mais vous savez peut-être que la sorcellerie est un sujet qui passionne toujours beaucoup la population ici. Mais quand on demande aux gens d'expliquer ce qu'ils en savent, ça se réduit souvent à la description des salas, au tableau de la Peña qui était au musée basque autrefois, avec le balai posé au milieu. Vous vous rappelez certainement de cette pièce de la sorcellerie dans le musée basque ancien. C'est-à-dire tous les poncifs qu'on a véhiculés jusqu'à présent sur la mythologie, sur la sorcellerie. Et en particulier, on s'appuyait sur le livre de Pierre de Lancre en disant, voilà, Pierre de Lancre a décrit ces choses-là, et ces choses-là se sont passées ainsi. On a oublié plusieurs choses au passage. On a oublié, premièrement, et c'est fondamental, je vais y revenir plusieurs fois aujourd'hui, que ce que décrit Pierre de Lancre dans son livre est valable pour l'Europe entière. La sorcellerie du labour ne fait pas exception. C'est le même folklore sorcier, si je puis dire, que dans le reste de l'Europe. Surtout cette Europe du début du XVIIe siècle. Voilà un point qu'il ne faut pas oublier. L'autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est que la sorcellerie, ça ne se résume pas uniquement à des procès, à des condamnations. Il y a toute une question de mentalité derrière. Et ça, c'est aussi fondamental. Alors, je n'en dis pas plus, sauf que je voudrais quand même signaler que je me suis appuyé sur des études très intéressantes qui, bizarrement, n'ont jamais eu d'écho ici dans le Pays Basque. La première étude, c'est celle de Nicole Jacques-Chacun, dans les années 80, qui publie le livre de Pierre de Lancre, qui le republie, mais sous forme d'édition critique. Je crois qu'elle était professeure à la Sorbonne à cette époque-là. Elle fait donc la réédition du livre de Pierre de Lancre en simplement modifiant certaines expressions pour le rendre accessible au public d'aujourd'hui et en mettant une très forte introduction en point de départ, dans lequel elle annonce son parti pris d'étude. Et puis, chaque chapitre est fourni de notes très abondantes pour essayer d'en dire plus. Travail extraordinaire. Je vous le répète, qui n'a eu aucun écho ici en Pays Basque. Alors qu'elle dit, plusieurs fois dans le livre, si on veut comprendre les procès du labour, il faut comprendre ce pays, sa culture, sa géographie, son histoire, ses coutumes, son système juridique, ainsi de suite. La deuxième étude, c'est celle de François Borde, qui était à l'époque, je crois, universitaire à Pau, qui a édité un livre sur sorciers et sorcellerie en Pays Basque et en Gascogne. Il était archiviste, également de formation, je crois. Aujourd'hui, je crois qu'il est archiviste à la ville de Toulouse, si mes renseignements sont bons. Quelqu'un qui a fait un travail remarquable, puisqu'il est reparti vers les archives pour essayer de sortir justement de toutes les images fausses qu'on a développées jusqu'ici. Et enfin, je me suis servi également d'autres thèses universitaires plus récentes, qui essayent de faire la lumière sur les procès de Sugawamurdi et de montrer le lien entre les procès du labour et les procès de Sugawamurdi, parce qu'il y a un lien, chose que je ne savais pas encore il y a quelques mois. J'étais persuadé que c'était des choses très différentes, mais il y a un lien. Vous aurez la primeur tout à l'heure. Je n'en dis pas plus, on va commencer. Ces événements ont eu lieu il y a donc à peine un peu plus de 400 ans. Shogina, le mot qui veut dire sorcière en basque. Pour commencer, je vais donner la parole à une jeune sorcière pour partir de l'imaginaire qui s'est développé à partir du livre de Pierre Delancre. Donc je vais faire une part à cet imaginaire-là, vous allez reconnaître beaucoup de choses. À un moment donné, elles seront illustrées par les tableaux de Tillac, les gravures de Tillac. Demain, à l'aube, ils vont venir me chercher pour me conduire au bûcher. 15 ans, c'est un peu tôt pour mourir, non ? Morgui, la jeune sorcière repentie qui collabore avec le juge, a fini par trouver la marque du diable sur mon corps. Là, juste au coin de mon œil. Une marque en forme de crapaud, c'est la preuve, a dit le juge. Et Morgui a ricané. Alors, j'ai raconté au juge les poniments que mes amis et moi avions convenu d'avouer si nous étions accusés. C'est une phrase très importante qui va articuler tout mon propos. On sait aujourd'hui, après des analyses du livre de Pierre Delancre, analyse psychiatrique par exemple, que le juge a obtenu exactement les aveux qu'il voulait entendre. C'est quelque chose de très particulier dont on va parler au cours de cette conférence. Et voilà ce que dit la jeune sorcière au juge. Tout le monde sait que le juge est friand de détails scabreux. J'ai donc essayé de l'amadouer en insistant sur le déroulement de l'Aquelarre, le rassemblement des sorcières. Je lui ai dit comment la femme d'une importante maison du village m'a entraîné au sabbat. Je lui ai expliqué comment il m'a fallu user d'un onguent magique pour m'envoler vers le lieu du rassemblement. Comment le diable trône au sabbat, sous l'aspect d'un bouc, et de quelle façon il faut l'embrasser par derrière, sur le visage qu'il a sous la queue. On expliquera tout ça. Je lui ai dit avec quelle frénésie on se livre à des danses impudiques toute la nuit, au son de la flûte et du tambourin. Et avec quelle frénésie, avec quelle liberté, pardon, on fait l'amour avec toutes sortes de personnes, et avec le diable aussi. Je lui ai expliqué comment, lors du sabbat, on fabrique des poisons pour les ramener chez soi et semer la désolation. Et aussi comment la plus belle fille est désignée reine du sabbat, et de quelle façon elle offre son corps pour autel lors de la messe noire. Et enfin, j'ai indiqué que le sabbat s'achève au petit matin quand retentit le chant du coq. Mais vous, n'allez quand même pas croire toutes ces choses. Vous pouvez comprendre comment nous en sommes venus là. Pourquoi nous nous sommes accusés les unes les autres. Et pourquoi nous avons inventé ces histoires sordides. Alors pour le comprendre vraiment, je vous entraîne d'abord dans un portrait de ce personnage qui en 1609 est venu ici en Pays de Labour. Pour comprendre Pierre Delancre, il faut parler de sa famille d'abord. La saga commence au début du XVIe siècle lorsque une communauté de villageois de Juxu, en Basse-Navarre, côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, décide d'émigrer, de quitter la région, certainement parce qu'elle était dans la misère, et ces gens-là s'expatrient jusque sur les lits de la Garonne, dans la région de Saint-Macaire. Et parmi eux se trouve Bernard de Rostegui, d'Arostegui, ce qui veut dire de la maison Arostegui. Et Bernard d'Arostegui, certainement très vaillant, avec ses compagnons, décide de s'implanter dans une zone viticole, peut-être pour accomplir le travail dans les vignes, mais également, on compte parmi eux des charpentiers de marine, qui vont certainement construire des bateaux à fond plein pour faire du commerce sur la Garonne, semble-t-il. Et Bernard d'Arostegui, vaillant, originaire de Jussieu, devient propriétaire à Saint-Macaire, et très vite, il va obtenir la charge de contrôleur des deniers du royaume. On va dire, pour simplifier, un peu un genre de percepteur, si vous voulez. Son fils à lui, s'appelle Bernard également, va continuer sur la lancée de son père, accroître la fortune de la famille, et va acheter la maison noble de Taste. Il porte donc aussi le nom, le titre de sieur de Taste. Son fils à lui, Étienne, le père de Pierre de Lancre, Étienne de Rostegui, continue également, il porte le titre de son père, et il devient licencié en droit, donc il quitte les affaires habituelles de la famille, conseiller notaire, puis secrétaire du roi, maison et couronne de France, et c'est lui qui achète la maison de Lancre, et donc va pouvoir ajouter à son titre, sieur de Lancre. Donc son fils, Pierre, est habituellement appelé Pierre de Lancre. Pierre de Rostigny, Pierre de Lancre. Alors je coupe tout de suite court aux rumeurs qui disent comment un homme d'origine basque a-t-il pu s'attaquer aux Basques. Il faut arrêter avec cette vision des choses. Pierre de Rostigny n'est pas basque à cette époque-là. Et il n'a jamais été basque, si on peut dire. Il est d'origine basque, certes, mais il ne se sent pas basque du tout. Et à cette époque-là, que veut dire être basque? Je pose la question. Habituellement, on va beaucoup trop vite et on lit trop l'histoire avec les lunettes qu'on a aujourd'hui. Il faut faire très attention, ça me paraît un travers trop fréquent ici en Pays Basque actuellement. Alors, Pierre de Lancre, plus de précision sur lui, bien entendu. Pierre de Lancre naît en 1553 à Bordeaux et il va faire des études chez les jésuites. On va retrouver les jésuites à plusieurs occasions dans cette histoire, de façon assez intéressante. Il va faire, comme beaucoup de fils de famille aisée à cette époque-là, il va suivre des études universitaires, et il va faire, c'est un peu le système Erasmus avant la lettre, il va faire ses études à l'étranger. Il va à Turin, et il devient docteur en droit en 1579. C'est quelque chose de très important, puisque à la fin de ses études, il va revenir à Bordeaux, mais en prenant du temps, il va d'abord visiter toute l'Italie du Sud, puis l'Europe centrale. Et on pense que c'est au cours de ses voyages et au cours de ses études qu'il va commencer à s'intéresser au mystère, au sceptre, à la sorcellerie. Et sans doute va-t-il découvrir, en tout cas, les derniers soubresauts de certaines affaires touchant à la sorcellerie et à l'hérésie, en particulier l'hérésie des Vaudois. Donc, certainement que Pierre de Lancre va être imbibé par un climat particulier qui va vraiment le pétrir entièrement et qui va rejaillir ensuite dans les affaires de sorcellerie dont il va être le juge. Il rentre donc à Bordeaux, où il devient avocat au Parlement de Bordeaux. Il devient ainsi aussi conseiller à la seconde chambre des enquêtes et, les affaires se faisant en famille, il va épouser Jeanne de Mons, fille du président de la première chambre des enquêtes, qui est aussi la petite nièce de Montaigne. On dira tout à l'heure un mot sur l'influence de Montaigne, enfin sur l'avis de Montaigne sur la sorcellerie. Henri IV lui donne une commission pour enquêter en labour en 1609. Mais il va exercer également ce rôle de juge en poursuite de sorcellerie dans d'autres circonstances, à Bordeaux en particulier, juste après le labour, et en Gascogne, dans le Gers. Et il va énormément marquer les esprits par sa manière de travailler. C'est un démonologue reconnu. Michelet parle de Pierre de Lancre, et dans son chapitre sur la sorcière basque, dans son fameux livre « La sorcière », Michelet fait énormément appel au livre de Pierre de Lancre. Ce démonologue reconnu est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la sorcellerie. Il va démissionner en 1616 de sa charge de conseiller au Parlement pour celle de conseiller du roi en son conseil d'État. Et quelques années plus tard, il va mourir en 1631. Il meurt sans enfant. J'ai mis des points de suspension parce qu'on sait aujourd'hui qu'il a eu quand même un enfant. Un enfant, comme on dit, naturel à l'époque, qui est devenu jésuite. Voilà. Première occasion de rencontrer les jésuites à nouveau. On n'a aucune représentation de Pierre de Lancre, alors je m'excuse de ce petit dessin pour le présenter, mais je voudrais surtout le présenter à partir de certains jugements qu'on a portés sur lui pendant très longtemps. Je vous invite vraiment à le voir sans parti pris. On dit toujours que ce personnage est fou, que c'est un obsédé sexuel, que c'est un personnage peu recommandable. Je crois qu'il faut réviser tous ces jugements-là. Ça aussi, c'est une manière de le voir à partir de nos manières de voir d'aujourd'hui. On peut peut-être faire autre chose. En tout cas, je vous livre d'abord ce qu'on en pensait de lui en Pays Basque jusque dans les années 1980-90. C'est Eugène Voynetch qui parle. Esprit médiocre et pédant, il est totalement dépourvu de sens critique, abrupt et vaniteux, peu estimé de ses collègues, il semble nourrir des sentiments de frustration. Ça cadre vraiment bien avec tout ce que l'on pensait à l'époque sur ce personnage-là. Mais si on écoute François Borde, qui, beaucoup plus récemment, se repenche sur ce personnage, on a un sentiment un peu différent. Nourri de culture ecclésiastique, juridique et magique, il croit évidemment en la réalité des sorcières et de leurs maléfices. Cet homme fut surtout représentatif de la culture savante de son temps. La culture savante de son temps s'intéressait énormément à la sorcellerie. C'était dans l'air du temps, comme on dit. Donc voilà un jugement sur lequel moi je me suis appuyé pour essayer de dépasser toutes les, je ne dis pas les rancœurs, mais tous les faux jugements qu'on a portés sur ce personnage-là. Il faut essayer de faire appel à la raison, de partir des archives, de partir des faits et de partir du contexte général qui existe dans l'Europe à cette époque-là pour comprendre ce qu'a fait Pierre de Lancre. Alors, juste trois petites diapos pour vous expliquer vraiment le contexte. Pour moi, d'abord, les affaires de sorcellerie doivent être resituées dans le temps. Je vous mets une frise chronologique ici. J'aime bien, alors je ne me prends pas pour Jacques Attali, mais j'aime bien mettre la charnière de la découverte de l'Amérique ici, qui montre bien qu'il y a un monde qui change. C'est un repère, moi, qui me plaît beaucoup, donc je l'adopte. Je ne vous demande pas forcément de me suivre, mais voilà. Les procès en Basse-Navarre se déroule en plusieurs vagues. Alors, je ne vous mets pas les dates pour ne pas appesantir mon propos. Plutôt que les procès, ce sont les affaires, parce qu'il y a aussi des affaires sans procès, où la population d'elle-même règle les affaires. Le Labour, voilà, avec le procès donc ici de 1609. La Soule, ici. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier aussi le Béarn, beaucoup plus tardivement. Et la Gascogne. Quant au versant sud des Pyrénées, l'autre côté de la ville à Soie, la Navarre connaît également quelques vagues de concernant la sorcellerie. Le Guipuscoa et la Biscaye, très peu, très très peu. Voilà, en gros, pour, si vous voulez, la densité d'affaires concernant la sorcellerie entre le Moyen-Âge, en gros, si vous voulez, et le siècle des Lumières. Je n'ai mis que les principales, parce qu'il y a aussi des petits faits épisodiques, mais vraiment minimes, dans chacune de ces régions. Alors, on me parle tout de suite de l'Inquisition. On me dit, oui, mais l'Inquisition, là-dedans, comment va-t-elle agir? Quand va-t-elle agir? Voilà déjà une première grande confusion qu'il faut bien éclaircir. L'Inquisition naît en France, au XIIIe siècle, et très vite, si je puis dire, elle va quand même diminuer son influence dans les affaires. Vous voyez que la frise s'interrompt très vite. En Espagne, le roi fait appel à l'Inquisition, demande au pape donc d'installer l'Inquisition en 1480, juste à cette fracture donc que j'ai signalée ici. Et Jacques Attali d'ailleurs insiste sur ce fait-là justement. Le Portugal va adopter l'Inquisition quelque temps après, et je vais donc vous placer quelques petits repères pour bien vous montrer quelques incidences de toutes ces choses-là. L'Espagne chasse les juifs de son territoire, les rois catholiques. Les juifs vont se réfugier au Portugal dans un premier temps. Par un jeu d'alliance matrimoniale là-bas au Portugal, le Portugal chasse à nouveau les juifs qui vont se réfugier en France et qui vont s'installer dans le labour côtier, très peu de temps avant les procès de sorcellerie. Je vous le dis tout de suite, ils ne seront pas inquiétés pratiquement pour les procès de 1609. Ils seront inquiétés 10 ans plus tard, d'une manière assez atroce, on va en parler. Mais pour les procès de 1609, ils sont absents. Et chaque fois que Pierre de Lancre fait référence aux Juifs dans son livre, c'est uniquement sous la forme d'un racisme anti-juif, si vous voulez, d'un antisémitisme, qui était de bon ton à cette époque-là, bien évidemment. Alors, j'enlève tout ça ici, ça ne me paraît pas le plus important pour l'instant. Ce qui est important, par contre, à dire, c'est que l'Inquisition ne va agir qu'en Espagne. C'est-à-dire les procès de Zugarramurdi, 1610, un an après les nôtres, ici, les procès de 1610 sont le fait de l'Inquisition. Voilà. L'Inquisition n'agit pas en labour. En labour, c'est le roi qui va agir. Et ce qu'il faut signaler également tout de suite, et on en parlera plus si vous voulez, c'est que quelques années plus tard, en 1614, l'Inquisition d'elle-même arrête les procès de sorcellerie. Et on verra pourquoi tout à l'heure très rapidement. Ce sont un des inquisiteurs de Logroño qui va décider, ses collègues, à arrêter de poursuivre les gens au motif de sorcellerie, en disant que ça ne repose sur rien de véridique et rien de sérieux. Voilà pour le portrait un petit peu dans le temps de ce qui s'est passé. Mais je vais m'appuyer sur cette trame-là pour aller plus loin. Donc je ne reviens pas sur les procès, je vais simplement essayer de les mettre en filigrane dans le contexte européen. On distingue plusieurs phases dans l'histoire de la sorcellerie. Dans un premier temps, la sorcellerie, disons à partir du Moyen-Âge jusqu'en gros vers le XIVe siècle, la sorcellerie, ça ne pose pas trop de problèmes, les gens font avec, il est de bon ton de dire qu'il y a des sorciers et des sorcières à proximité, dans tous les villages. Et la sorcellerie, on dit qu'à cette époque-là, elle est plutôt liée au fait que les sorciers sont considérés pour des gens qui sont mauvais par eux-mêmes, qui se transmettent ce maléfice et cette manière d'être de père en fils, de mère en fille, mais qui sont mauvais par eux-mêmes. Le diable n'intervient pas dans leur attitude. Enfin, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, donc le diable ne fait pas partie de la sorcellerie. Mais petit à petit, on va avoir, vers la fin du XVe siècle notamment, un changement de mentalité. Certains parlent même d'une acculturation. On va changer de culture sur la sorcellerie. À partir, en particulier, ça va être le point culminant de ce changement, de l'édition du fameux Marteau des sorcières. Un livre qui va être décisif dans l'appréhension de la sorcellerie. Ce livre-là, donc écrit en 1486, constitue un tournant dans la manière de voir la sorcellerie. Et à partir de là, une autre manière de voir la sorcellerie va s'imposer. De courte durée, mais elle va s'imposer. Et c'est dans cette vision de la sorcellerie que vont se dérouler les procès du Labour et du Zugarramurdi. À cette époque-là, on considère que le diable intervient dans la sorcellerie. Il intervient tellement que tout le monde peut être possédé par le démon. Vous voyez ici le pape lui-même possédé par le démon. On parle alors de sorcellerie diabolique. Puis, à partir de la fin des procès de Zugarramurdi, mais surtout des procès de Gascogne, la population entière et les intellectuels changent complètement d'optique. Tout ce qui concerne le sabbat, on va en parler dans un moment, par exemple, va être abandonné. Les gens vont arrêter de croire à certaines sornettes, pour en adopter d'autres peut-être, mais on va changer complètement de culture sur la sorcellerie à nouveau. Et on va avoir plutôt là une sorcellerie liée à des affaires de société. Les gens ne croient plus au sabbat, mais ils sont persuadés quand même que la sorcellerie existe et qu'il y a des gens qui peuvent leur porter tort en leur jetant des sorts et provoquer des désordres sociaux ou économiques, mauvaise récolte par exemple. Donc on va poursuivre ces gens-là et on va voir arriver dans toutes les campagnes d'Europe des gens qui se disent spécialistes pour lutter contre la sorcellerie, ce sont les visiteurs en sorcellerie, on les appelle comme ça, qui vont aider les populations à se débarrasser des sorciers, moyennant finance, bien entendu. Donc vous devinez, tout ce qui peut se passer, tous les excès qu'il peut y avoir derrière. C'est ce qu'on appelle donc la sorcellerie liée aux tensions sociales, jusqu'à l'entrée du XVIIIe siècle. Et ensuite, les choses vont petit à petit disparaître, mais ça va demander quand même du temps. On va quand même encore assister à une nouvelle vague, à une nouvelle vision de la sorcellerie, qui est plutôt liée à la diffamation. On accuse les gens d'être sorciers pour leur porter tort, tout simplement, sans apporter d'autres preuves. Et également la sorcellerie des charlatans, qui sont capables de guérir toutes les maladies, y compris les plus graves, avec un simple remède de leur fabrication. Donc, vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir avec tout ce qui a été vécu précédemment. Donc, ces différentes phases de la sorcellerie, bien entendu, vous avez toujours en filigrane les procès ici. Vous avez vu qu'il n'y a pratiquement plus de procès à partir du 18e ici, dans la région. Les gens continuent pourtant de s'interpeller, de se traiter de sorciers. Et pour vous donner un simple petit repère chronologique, en 1950, à Urugne, on désigne encore des femmes comme sorcières, en faisant le fameux signe poche-poche pour chasser ces sorcières-là, qui regardent d'un mauvais œil les enfants dans leur landau. 1950. Donc on est dans une sorcellerie tout à fait différente que celle qu'a combattue Pierre de Lancre. Tout ça, c'est tout à fait différent de la sorcellerie historique. Mais voilà, donc l'injure suprême, tu es une sorcière, tu es un sorcier. Donc voilà un petit peu le contexte européen dans lequel se situent les procès du labour. Dernier petit repère que je voudrais vous donner, c'est aussi les mentalités, pour comprendre ce qui va suivre. Je ne garde plus que les procès de Sougaramouni et du labour. Vous avez donc ma trame toujours là. Je parle du sabbat. Le sabbat n'a pas toujours existé dans les affaires de sorcellerie. À partir du XIIIe siècle, l'hérésie des Vaudois, dans le sud-est de la France, le nord de l'Italie en gros, si vous voulez, les Vaudois causent beaucoup de troubles dans la société parce qu'ils ont en particulier des cérémonies qui paraissent très désordonnées par rapport au culte catholique, où on fait beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements. On dit qu'ils sont ensabbatés. Ça n'a rien à voir avec le sabbat juif, c'est simplement un vieux mot, hein, comme on dit aussi ensabbaté, qui veut dire faire du bruit. Un vieux mot français, faire du bruit, faire du tapage. Le carnaval est une fête ensabbatée. Les Vaudois sont dits ensabbatés, et comme les Vaudois sont hérétiques, très vite, ils vont être soupçonnés aussi de sorcellerie. Et l'Église, qui se penche sur leur cas, va très vite décider, c'est le pape lui-même qui le dit, de suspecter tout hérétique d'être aussi sorcier. Le pape parle de saveur d'hérésie dans la sorcellerie. Une très jolie expression, mais quand même assez sinistre. Donc, à partir du moment où des relents de saveur d'hérésie se manifestent chez les sorciers, ils sont censés être poursuivis par la justice. Plus tard, ces Vaudois, toujours, vont être décrits comme faisant leur réunion de nuit. Jusque-là, on n'en parlait pas. Ils se réunissent autour du diable. Et autour du diable, ils accomplissent des méfaits que l'Église ne peut pas accepter. Le rejet des sacrements, la messe à l'envers, des mots impies qui sont proférés. Donc l'Église les condamne. On a bien là la preuve que ces gens-là sont soumis au diable. Ce sont des sorciers et des hérétiques. Et très vite, va apparaître tout un folklore qui va développer cette idée. Ces réunions autour du diable prennent des ampleurs terribles, puisque à partir de le milieu du XVe siècle, on dit que lors de ces réunions, ils vont jusqu'à adorer le diable. Et on adore le diable de différentes façons, mais notamment à partir de ce rite qui est presque un rite carnavalesque, où on met le monde à l'envers, on embrasse le diable non pas sur le visage, mais sous la queue, à l'envers. Ce sont les rites donc de l'inversion du monde, qui sont bien connus donc, dans les rites de carnaval, notamment. Donc le sabbat commence vraiment à avoir un certain succès. Et tous les démonologues vont reprendre ces idées-là et les développer, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, en Italie, en Espagne également, mais donc dans d'autres régions, bien évidemment. Donc vous voyez que ce que va dire Pierre de Lancre du sabbat, ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est dans l'air du temps, si je puis dire. Tous les démonologues, tous les intellectuels et toute la population partagent ces points de vue-là. Ce n'est que donc, pour les procès ici, ce sont donc des choses qui sont véhiculées par certains démonologues, un des plus connus c'est Baudin, un des plus féroces également, qui va énormément influencer Pierre de Lancre. La littérature de Baudin va influencer la rédaction même du livre de Pierre de Lancre. Il va reprendre beaucoup de choses chez Baudin. Et lorsque je dis ça, il n'est pas le seul, il y a également Del Rio qui, lui, va être très connu de Pierre de Lancre également, qui va avoir un jugement terrible sur ceux qui n'acceptent pas la sorcellerie, ceux qui ne reconnaissent pas que la sorcellerie existe, et qui va, lui aussi, de ce point de vue-là, influencer énormément Pierre de Lancre. N'oubliez pas qu'on est à l'époque d'Henri IV. Henri IV lui-même dit qu'il ne croit absolument pas à la sorcellerie. On lui prête même une phrase, alors est-ce qu'elle est véridique? J'en sais rien. On lui prête la phrase suivante, « Il vaut mieux envoyer ces gens-là chez un médecin qu'au bûcher. » Et Henri IV, donc, c'est clair, il ne croit pas à la sorcellerie. Et il est entouré également par des intellectuels, et dans l'Europe entière, il y a aussi des intellectuels qui partagent ce point de vue-là, notamment, vous le connaissez bien, Montaigne, Michel de Montaigne, qui plusieurs fois va affirmer que la sorcellerie, pour lui, doit être remise en question. C'est lui qui dit cette phrase, toute simple, « Après tout, c'est mettre ses conjectures, ses procès, à bien au prix que d'en faire cuire un homme tout vif. » Voilà ce que dit Montaigne. Et Del Rio, dans son livre, va plusieurs fois reprocher à Montaigne ses points de vue et ses positions. Et Pierre de Lancre va enfourcher également le cheval de Del Rio pour contester le point de vue de Montaigne. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez vu tout à l'heure, il est proche parent de Montaigne, par sa femme. Donc, il est en conflit certainement intellectuel avec ce proche parent. Il va développer Pierre de Lancre, un thème qui lui est propre, cependant, il est bien qu'il soit lié à tout le mouvement européen, le thème de l'inconstance. J'expliquerai ce thème-là tout à l'heure, c'est sa vision même de la sorcellerie. Pour lui, le diable rend les gens inconstants, c'est-à-dire mouvants. Donc on n'est pas loin aussi de leur sabbatement, si je puis dire. Les gens sont mouvants, les gens sont instables, ils participent donc à un univers démoniaque plutôt qu'à un univers divin. Un autre inquisiteur doit être nommé ici, un autre organisateur de chasse aux sorcières, c'est Salazar y Frias, qui lui fait partie de ces trois inquisiteurs du procès de Logroño, qui va demander d'arrêter la chasse aux sorcières. C'est grâce à Salazar y Frias que la sorcellerie va subir le deuxième tournant. Lui dit, la question est de savoir si dans telle affaire il y a eu sorcellerie, juste parce que des sorciers le disent. Là aussi, ça semble du bon sens, pourtant à l'époque, ça posait problème. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire des mentalités. Il y aurait beaucoup à dire, bien entendu, il y a des livres entiers là-dessus, je ne vais pas développer, mais vous allez voir par la suite, ça va vous rendre service de comprendre que les procès du labour doivent être vus à travers ces mentalités. C'est très important. Il ne s'agit pas de dire, comme je l'entends dire trop souvent encore aujourd'hui, de l'encre est venue pour des raisons, comme l'expression c'est pour pratiquer un ethnocide, sous-entendu pour éliminer le peuple basque. C'est aller très loin de dire ça. Le peuple basque, c'est une notion qui n'existe pas à cette époque-là. Et deuxièmement, je crois qu'il faut être très vigilant sur nos manières de voir les choses. Pierre de Lancre est envoyé par le roi pour toute autre chose. Et ces choses-là, on va les voir dans le détail. Mais pour les comprendre, d'abord, à la fin, je voulais dire que la fin donc, du folklore sabbatique, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, est ici. Il nous faut maintenant passer à un autre chapitre. Je vais suivre les conseils de Nicole Jacques-Chacun. Je vais essayer de vous présenter le pays de la bourre au début du XVIIe siècle. Et vous allez voir qu'à travers toute la présentation que je vais faire, vous allez avoir tous les indices qui vous permettent de comprendre comment Pierre de Lancre a agi et pourquoi il a agi. C'est important de dire, avant de commencer, que lorsqu'on lit le livre de Pierre de Lancre, entre parenthèses, qui est très bien écrit. Beaucoup de spécialistes aujourd'hui disent qu'il dépasse Dubélé en qualité littéraire. Et Pierre Delancre donne des détails sur les modes de vie, la culture, les croyances des habitants du Labour, que son livre est une véritable mine ethnographique. On a là des données incomparables sur la situation du Labour au début du XVIIe siècle, avec des précisions telles que, par exemple, certaines danses qu'il décrit dans son livre, il est musicien, hein, certaines danses et certains instruments de musique sont tellement décrits parfaitement qu'aujourd'hui encore, les spécialistes savent de quelle danse il parle et de quel instrument il parle. Donc ça veut dire que c'est quand même un travail de qualité également. Alors, le Pays de Labour, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire où se trouve le Pays Basque et le Labour sur la carte de France, mais il m'arrive de faire la conférence à des gens qui ne sont pas d'ici, donc je viens tout de suite à cette carte. Une carte qui date pratiquement de l'époque des procès de Labour. Elle est intéressante pour deux raisons. Premièrement, c'est une carte historiée, donc vous voyez les montagnes qui sont dessinées, vous voyez l'océan avec les navires, et on a là quelque chose qui nous paraît tout normal aujourd'hui, mais qui déjà, pour Pierre Delancre, est une preuve que le pays est infesté par le diable. Il dit dans son livre, il est normal que l'on trouve des démons en quantité en Pays de Labour. Ils sont venus se réfugier dans les montagnes de ce pays après avoir été chassés par les missionnaires des contrées d'Amérique du Nord. Je ne sais pas s'ils y sont encore, mais voilà l'origine de tous nos maux, si vous voulez. Donc je veux dire par là que Pierre Delancre s'appuie sur la géographie de ce pays pour étayer son discours sur l'inconstance. Un pays partagé entre mer et montagne ne peut être qu'un pays inconstant. D'ailleurs, si vous réfléchissez bien, il n'y a que 80 départements comme ça en France. C'est aussi un atout touristique aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Le pays de Labour dont il est question, là aussi, on n'a jamais fait attention, mais quand on fait la liste des villages cités pour avoir été visités par Pierre Delancre, on est quand même surpris de constater qu'il n'y a que le Labour côtier, c'est-à-dire Asparin, par exemple, n'a jamais été touché par les procès de sorcellerie. En tout cas, cela. C'est un indice très très important qui prend toute sa valeur avec les faits qu'on va découvrir par la suite. Voilà pour la situation géographique. La population, elle est très pauvre. Un professeur d'histoire de Pau, alors je ne me rappelle plus son nom, je m'excuse, m'a dit lors de la première conférence que j'avais fait qu'on est convaincu aujourd'hui qu'à cette époque-là, le Labour est certainement la contrée la plus pauvre du Royaume de France. En tout cas, la plus miséreuse. Donc, c'est une région qui vit très chichement, économie de subsistance, que je symbolise ici par les pommiers. Chaque maison produit sa boisson, elle produit tout ce qu'il lui faut pour vivre. Les pommiers, qui, jusqu'à une époque récente, servaient pour faire la boisson de ce pays, le cidre. Et Pierre Delancre ne va pas manquer, bien entendu, cette occasion-là. Vous imaginez bien, lui, faire les traits, homme cultivé, catholique également, qui connaît bien la Bible, tout ce qu'il peut dire à partir des pommes qui vont au Pays Basque. L'origine du mal de l'humanité, c'est la pomme, quand même. C'est un pays qui est essentiellement orienté vers l'élevage, une contrée orientée vers l'élevage. Je vous dis cela parce qu'il y a eu très probablement des contacts entre bergers, c'est une déduction que l'on fait au vu de certains événements, entre bergers du versant sud et du versant nord des Pyrénées. Les Jean de Navarre était au courant de ce qui se passait en Labour. Ça les a même attirés très souvent pour venir voir, curiosité malsaine, ce qui se passait lors des exécutions. On le sait aujourd'hui. La vie économique et sociale est organisée autour des maisons, autour des étchés. Je précise que les étchés, ce sont les maisons des maîtres de maison, mais la plupart de la population vit dans des conditions très précaires. Tout le monde n'est pas maître de maison, loin de là. La famine, cependant, malgré la misère, la famine a été éloignée. Depuis pas mal de temps, les Basques sont marins, ont appris à connaître l'océan, à naviguer dessus, et ils sont tournés vraiment vers l'océan. Pierre Delancre le dit lui-même dans son livre, à l'époque des procès, il y a entre 3 000 et 5 000 marins sur 30 000 habitants dans le Labour. La proportion est quand même importante. Ce sont aussi des navigateurs audacieux, réputés, ils ont servi souvent de pilotes sur les bateaux des grandes découvertes, hein, et Ils ont ramené d'Amérique différentes denrées, et en particulier une céréale qui va connaître vraiment du succès ici dans ce pays-là. Le maïs serait arrivé en Europe dans deux endroits, en même temps pratiquement, du côté de Séville et la plaine du Staritz. Et le maïs trouve un climat favorable ici pour sa croissance, donc il va être utilisé très tôt pour l'alimentation du bétail. Et par contre, favoriser une bonne alimentation pour les humains. Mais, connaissant bien l'océan, les Basques, comme les Bretons et les Normands, ont découvert également la mine de nourriture que représentent les bancs de Terre-Neuve. La morue. Et très vite, ils ont abandonné la chasse à la baleine pour la pêche à la morue. Et cette pêche à la morue, qui était donc menée conjointement avec d'autres personnes du continent, alors j'ai cité les Normands, les Bretons, mais il y a aussi les Saintongeais, petit détail important. Donc, le littoral atlantique, si vous voulez, se lance à la pêche à la morue. Les Basques, certainement, l'ont fait très tôt, très très tôt. Les Canadiens travaillent beaucoup là-dessus actuellement, les Québécois, et ils ont trouvé des indices qui montrent que peut-être les Basques ont commencé cette pêche-là. En tout cas, les Basques, plus que les Normands et les Bretons, vont doubler cette pêche lorsqu'ils se rendent là-bas vers l'Amérique, par un commerce qu'on appelle la traite des peaux ou la traite des fourrures avec les Indiens. Les Bretons le font aussi, les Normands également, mais les Basques, l'ayant commencé plus tôt, se sont vraiment bien implantés, et après la pêche à la morue, ils remontent le Saint-Laurent et ils traitent avec les Indiens. On dit, est-ce que c'est une légende ou pas, j'en sais rien, personne n'a pu me guider là-dessus. On dit que les Indiens, pour faire davantage de commerce avec les Basques, commencent à apprendre des rudiments de Basque, en particulier des salutations. Voilà, donc c'est ce que l'on dit, c'est peut-être tout simplement pour dire que les rapports étaient très proches entre les Indiens et les Basques. On sait que, souvent, les équipages basques laissaient un marin ou deux de chaque navire dans la contrée du Saint-Laurent pour passer l'hiver avec les Indiens, pour continuer d'être présents avec eux. On a découvert dans certaines sépultures indiennes au Québec des cadavres qui étaient surmontés par des chaudrons en cuivre. Or, il n'y avait pas de cuivre chez les Indiens. Mais on a trouvé également dans un bateau, le San Juan, échoué dans le Saint-Laurent, lors de fouilles archéologiques monumentales qui ont eu lieu dans les années 80-90, le plus grand chantier archéologique sous-marin du monde à l'époque, avec des combinaisons chauffantes. Ils ont remonté pièce à pièce toute la charpente et le navire du San Juan et tout ce que les cales pouvaient encore contenir. Et en particulier des clous, de la vaisselle et des chaudrons. Or, les chaudrons, vous le savez, étaient fabriqués essentiellement dans ce pays par les bohémiens. Donc les bohémiens font partie des équipages. Ce sont eux qui fabriquent les chaudrons, ce sont eux qui font du troc avec les pêcheurs, qui font du troc donc avec les Indiens pour échanger des peaux. Donc on a là des petits indices très intéressants. Grâce à cette alimentation, qui les sauve de la famine, la population va augmenter. 17e siècle, c'est l'époque où toutes les maisons du labour vont s'agrandir. L'habitat s'adapte, alors je ne vais pas vous faire un cours d'architecture aujourd'hui, mais la maison d'origine est ici, au centre de la maison, ici. Le toit devait être ici au départ. Puis, pour des raisons d'accroissement de population et pour abriter les récoltes, on agrandit la maison latéralement, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et on l'agrandit aussi en hauteur. Et vous avez donc là l'origine de ces dissymétries qu'on a dans les maisons. Les maisons basques sont symétriques, normalement. Mais elles peuvent perdre leur symétrie quand elles grandissent d'un côté, mais très vite, elles vont rétablir la symétrie en grandissant de l'autre côté. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vous dis tout ça parce que, tout simplement, l'accroissement de population se fait sentir aussi dans l'Église. Dans l'Église, je vous en avais peut-être parlé lors de la conférence sur la mythologie, les femmes font les rites funéraires dans la nef, les hommes doivent être derrière, pour ne pas les gêner. Quand je dis les femmes, c'est toutes les femmes de la maison. Amachi, la mère, les filles, les domestiques filles. Donc elles sont dans la nef. Les hommes, s'ils les gênent, il faut bien les mettre quelque part. Et c'est là que l'Église décide de construire les galeries pour mettre les hommes au-dessus des femmes afin de ne plus les gêner. Donc ce n'est pas pour des raisons de sorcellerie ou de machisme, comme on le dit, encore dans certains livres touristiques, qu'on a conçu des galeries, c'est tout simplement pour que les hommes ne gênent plus les femmes. Voilà, tout simplement. et belle galerie en bois, belle maison en pente de bois, mais les temps vont changer. On est à l'époque où le charpentier va perdre de plus en plus d'influence dans la construction. Ces belles maisons avec de belles pièces de bois ouvragées vont petit à petit évoluer et on va voir entrer un corps de métier qui jusque-là a été très discret dans ce pays, c'est le maçon ou le maître maçon, c'est-à-dire le tailleur de pierre. Et il n'est pas du tout fortuit que c'est exactement à cette époque-là que fleurissent les stèles discoïdales dans les cimetières. Et vous allez voir ce que Pierre de Lancre dit des stèles discoïdales. Donc voilà, j'essaie de vous brosser un portrait assez complet du labour à cette époque-là. C'est un territoire régi par une vieille coutume. L'unité de base, je vous l'ai dit, c'est la maison. Les maîtres de maison et les maîtresses, il y avait droit d'aînesse absolue, ce n'était pas toujours respecté, loin de là, dans une même paroisse, vont élire des représentants, les représentants du village, qui vont se réunir dans l'église, dans la tour de l'église en général. Ici, à Tsassou, ils avaient un banc dans une galerie qui leur était réservée. Ce sont les jurats, ou les abbés, comme on les appelle aussi, parfois. Et chaque paroisse envoie un de ses représentants à l'assemblée de la province, le Bilsar. Quelle que soit la taille de la paroisse, un seul représentant. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement du Bilsar, ce n'est pas le sujet, c'est d'ailleurs assez complexe. Et avant, je voudrais vous dire quand même que cette petite province, avec ses spécificités, est aux confins du royaume. Et dans cette province, le Bilsar est entre les mains des maîtres de maison, les nobles et le clergé sont exclus du Bilsar. Les décisions du Bilsar vont être exécutées par le syndic général, qui lui-même est élu par les maîtres de maison. Donc ça fonctionne un peu en autarcie, ça aussi. Et elles sont transmises au pouvoir royal par l'intermédiaire du bailli. À l'époque, le bailli, c'est Jean Copain d'Amou, sieur de Saint-Pé, le fameux château qu'on appelle aujourd'hui château des sorcières. Pierre de Lancre n'a pas habité dans ce château-là, il habitait dans une autre maison de Saint-Pé, la première maison à votre gauche quand vous arrivez à Saint-Pé par la route de Bayonne. Pierre de Lancre a passé un certain temps à Saint-Pé, comme il a passé un certain temps à Urtubie, et il n'a pas privilégié Saint-Pé par rapport à d'autres villages du labour. Contrairement à une idée reçue. Et on l'appelle aujourd'hui sur le château des sorcières, parce que c'est tout simplement là que devaient se tenir les procès lorsqu'il était à Saint-Pé. Et le pouvoir royal, à l'époque, c'est donc Henri IV qui l'occupe. Donc le pouvoir royal Henri IV, roi de France et de Navarre, c'est une clé de voûte qui se trouve à la cathédrale de Nantes. Je n'en ai pas trouvé ici localement, assemblée, donc je m'excuse. Voilà. Pour les institutions, très rapidement, vous essayez bien de retenir donc que les maîtres de maison sont vraiment les maîtres du pays, si je puis dire. C'est une contrée qui est entre deux pays en guerre. De 1512 à 1659, le conflit espagnol, ça commence avec Charles Quint, François Ier, ça continue avec Henri IV, Philippe II, et ça s'éternise. Ce sont des raids et des pillages incessants de chaque côté de la Bidassoa, bien entendu, comme toute guerre à cette époque-là. Mais, à cette époque-là, on envisage également de surveiller l'Atlantique. J'ai oublié de vous dire tout à fait au départ avec la carte, une fois que je vous ai parlé de la mer et de la montagne, j'ai oublié de vous montrer le cours de l'Adour. Vous avez vu que c'est une carte qui montre bien que l'embouchure a été ouverte, quelques années avant, 30 ans avant les processions sénégalaises. Donc, il y a un fait nouveau. Les soldats passent de moins en moins par la Bidassoa et l'intérieur du pays. Pour investir Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, ils préfèrent passer par voie maritime. Donc, il s'agit de les surveiller. Pour les surveiller, le Parlement de Bordeaux décide de reprendre un petit fort moyenâgeux qui existait sur le rocher de Socoa, à Saint-Jean-de-Luz. Un fort existait qui était plus ou moins délabré. Et le président du Parlement de Bordeaux va descendre avec Pierre de Lancre et va s'occuper en particulier de restaurer ce vieux fort et de l'agrandir. Le fort que vous voyez aujourd'hui n'est pas du tout celui-là. C'est le fort qui a été repris encore quelques années plus tard, sous Louis XIV, pour pouvoir encore l'agrandir.
Vous venez d'entendre la première partie de la conférence intitulée « Les procès de sorcellerie de 1609 », présentée par Claude Labatte, membre de l'association Laouboulou, enregistrement réalisé le 8 novembre 2013 dans le cadre de l'Université du Temps Libre de Bayonne.
Et vous pourrez retrouver la seconde partie de cette conférence de Claude Labatte sur notre antenne la semaine prochaine, même jour, même heure.